soit numérique, et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre deux, trois petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui chaque semaine aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos programmes télé, de nos billets de train, de notre rythme cardiaque et des jouets de nos enfants. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 90 pages de conditions générales d'utilisation. Sois numérique et tais-toi fait sa rentrée et vous invite une nouvelle fois à comprendre le monde connecté et algorithmé qui nous est présenté comme l'avenir, de plus en plus imposé à tous, pour le meilleur et pour le pire. Ensemble, nous prendrons le temps de revenir sur les origines de ces technologies, comprendre leur fonctionnement de manière critique et même réfléchir à ce que chacun de nous peut faire pour limiter les problèmes au quotidien. Cette semaine, nous allons commencer une série de chroniques sur l'une des magies du numérique, celle de pouvoir recevoir chez soi, bien emballé, des choses commandées en ligne. Des livres, des vêtements, les courses alimentaires de la semaine ou encore des repas prêts à consommer. Le rêve d'un mode de vie smart où l'on recevra tout chez soi en étant hyper connecté à notre écran et à notre carte bancaire. Ce futur mythique s'appuie sur un principe très ancré dans le XXe siècle, la livraison à domicile. De l'entrepôt de stockage au transporteur, jusqu'au livreur qui arrive à notre porte, nous abordons ensemble la face cachée de la livraison. Mais alors, de quoi parle-t-on? Comme souvent lorsqu'on expérimente le numérique ou lorsqu'il est présenté sous un jour favorable par les campagnes publicitaires, le consommateur ne voit que les deux moments qu'il est invité à regarder. Étape 1. Il va sur un site web commerçant et il choisit un produit à commander. Un ours en peluche, une perceuse électrique ou un sèche-cheveux en or massif. Bref, il donne des informations personnelles, notamment son adresse de livraison, et il paye le prix en ligne. Étape numéro 2. Quelques jours plus tard, tada ! Un livreur vient lui apporter le produit à sa porte. Ce qui nous intéresse à présent, ce sont toutes les étapes invisibles pour le consommateur. Elles sont occultées par les commerçants parce qu'elles ne sont pas du tout séduisantes pour la vente des produits. Premièrement, lorsque vous commandez un sèche-cheveux sur un site commerçant, le produit se trouve généralement dans un entrepôt. Dans des hangars, souvent de plusieurs milliers de mètres carrés, des employés sont exploités pour aller chercher le sèche-cheveux là où il est stocké, l'emballer pour l'envoyer vers les machines qui vont étiqueter et envoyer le produit dans le véhicule de transport. Deuxièmement, votre produit va être transporté vers chez vous avec un moyen de transport longue distance et très polluant. En fonction de l'endroit de stockage et du délai de livraison accordé, votre sèche-cheveux peut être expédié par la mer, dans un porte-container, par avion pour aller plus vite, ou par camion si le produit n'est pas trop loin. Troisièmement, votre produit va être confié à un livreur local pour effectuer ce qui est appelé en gestion logistique le dernier kilomètre. En gros, votre produit va être chargé dans une camionnette par un forçat de la boîte en carton qui parcourt les rues pour déposer votre précieux sèche-cheveux à votre porte. Ces étapes sont délibérément cachées par les commerçants pour qui la livraison à domicile n'est plus un moyen de se distinguer de la concurrence, mais un impératif pour continuer à faire tourner leur modèle économique. Pour cela, ils vont élaborer les stratégies qui leur coûtent le moins cher et qui permettent les livraisons les plus rapides. Pour l'heure, intéressons-nous à la première étape, l'entrepôt de stockage. Lorsque vous commandez un produit en ligne, ce produit est à l'origine stocké dans un local. Et avant qu'il soit envoyé par avion ou par camion, il existe un travail qui aurait pu inspirer Karl Marx ou Frederick Taylor. Imaginons que vous venez de cliquer pour acheter un paquet de papier toilette. Si, si, ça se vend en ligne. À ce moment-là, l'information est transmise à l'entrepôt qui stocke votre papier toilette et un ouvrier va recevoir l'ordre d'aller récupérer votre précieux produit dans le rayon où il se trouve. Puis il va l'emballer, l'étiqueter et le placer dans un tapis roulant qui va l'expédier vers son mode de transport. Là, un autre ouvrier va le réceptionner et le charger pour l'expédition. Bon, rien de très compliqué ni de très aliénant a priori dans ce travail de manutention. Mais réfléchissons un instant. Cette manutention doit coûter le moins cher possible pour pouvoir proposer une livraison quasi gratuite au client. Et cette manutention doit être la plus rapide possible pour assurer des délais de livraison express. Bref, en pratique, ces entrepôts sont à l'origine d'un nouveau sous-prolétariat. Un journaliste français, Jean-Baptiste Mallet, a mené une enquête approfondie pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces hangars. Amazon, géant du commerce électronique mondial, gère un grand nombre d'entrepôts de stockage des produits qu'il vend. Mais, même en France, l'entreprise cultive le secret sur leur fonctionnement et les conditions de travail des employés. Le journaliste s'est donc fait recruter pour travailler dans un de ces entrepôts situés dans la Drôme, à Montélimar. 36 000 mètres carrés de hangar qui, à l'approche des fêtes de Noël, accueille le recrutement de 1200 intérimaires dans une région fortement touchée par le chômage. La carotte, un CDI que la grande majorité n'auront jamais. Pour l'obtenir, les cadences de travail et la pression de la hiérarchie sont violentes et vont, dans un premier écrémage, enlever les moins dociles, qualifiés de moins motivés. Dans un contexte managérial adouci, ou pas, par le tutoiement et l'usage de l'anglais, les travailleurs sont divisés en pickers, ceux qui marchent pour aller chercher les produits, et packers, ceux qui emballent les produits. Le journaliste a été recruté comme picker, travaillant 5 à 6 nuits par semaine entre 21h30 et 4h50 du matin, soit 42 heures de travail nocturne par semaine, plus les heures supplémentaires. Et l'auteur explique « Il est très bien vu d'accepter ces heures supplémentaires lorsqu'on est intérimaire et que l'on espère par la suite être titularisé et obtenir un CDI. » Les travailleurs sont régulièrement fouillés, l'action syndicale est muselée. De plus, le travail est surveillé à chaque seconde puisque chacun est géolocalisé et le ramassage des produits se fait en les scannant avec une télécommande. Avec ces technologies, la productivité des travailleurs est mesurée, comparée, en fixant des objectifs à chaque fois supérieurs qui conduisent à marcher 24 à 26 km par nuit pour espérer une titularisation. Dans son ouvrage appelé « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes », paru en 2013, le journaliste rapporte les propos d'une manager. « Il y a parfois des gens qui tombent dans les pommes, c'est toujours quelque chose d'impressionnant au début. » Si vous êtes plus porté sur l'image que sur la lecture, un reportage réalisé par Alexia Sauvageon et diffusé en 2013 sur France 5, intitulé « 24 heures chrono, dans les coulisses des livraisons de colis », montre cela en images. On y apprend que, pour faire le quota de 260 colis par heure, un travailleur parcourt 30 km par jour et en direct devant la caméra cachée, une travailleuse s'écroule au coin d'une allée, frappée d'une crise de tétanie. Envoyée à l'infirmerie, elle s'excuse ensuite et reprend. « Hier, j'ai fait un très bon pourcentage et le manager m'a dit de faire pareil aujourd'hui. » Voilà le prix payé qui n'apparaît pas sur la facture d'Amazon. Mais alors, et nous dans tout ça? Eh bien, c'est nous qui alimentons ce système et tout ce qu'il implique. Évasion fiscale d'Amazon au Luxembourg, fermeture de nos commerces de proximité, etc. Mais savez-vous que même sans être client d'Amazon, vous payez pour que l'entreprise se développe? En effet, les collectivités publiques intéressées par ces emplois de manutention cherchent à attirer l'installation de nouveaux entrepôts. Dans un article du Courrier Picard du 6 octobre 2016, on y apprend par exemple que pour favoriser l'installation d'un hangar d'Amazon à Amiens, je cite, « La métropole a tout de même déplacé une route pour 2 millions d'euros et le département créera un giratoire pour 1 million. » Bref, amis contribuables, nous subventionnons la création de ces emplois par l'intermédiaire de nos élus locaux, que nous allons renouveler prochainement. Bon, de toute façon, aujourd'hui, Amazon fait bien plus que de la livraison. D'ailleurs, le boîtier télé de l'entreprise va bientôt sortir en France. Ça s'appelle Amazon Fire. Je vous épargne la traduction, mais je crois que le président brésilien Jair Bolsonaro en a déjà commandé une.